Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ce que nous demandons aux pays africains et aux pays amis en dehors du continent, c'est de faire pression sur les gouvernements portugais pour qu'ils ne reconnaissent pas un gouvernement d'un seul mouvement. Parce que s'il le faisait, donc il aurait fait un pas irréparable. Nous sommes contents de constater que les pays africains pensent nous. Les pays africains pensent aussi qu'il faut un gouvernement des trois mouvements de libération ou pas de gouvernement du tout.
Redoutable et impitoyable chef de guerre, Jonas Savimbi est sans aucun doute l'un des personnages qui aura marqué de son sceau, par son engagement et sa détermination, l'histoire mouvementée de l'Angola moderne. Engagé dès la fin de la décennie 1950 dans la guerre de décolonisation de son pays, son combat se sera poursuivi bien longtemps après l'accession de celui-ci à l'indépendance. Suite de notre série consacrée à ce personnage, dont le seul nom suscite encore pas mal de passion, et cela même au-delà des frontières de son Angola natal. Lorsque ce 11 novembre 1975, l'Angola accède à l'indépendance, elle est déjà confrontée à un autre problème. Les trois importants mouvements qui se sont battus pour l'obtention de cette souveraineté internationale ne sont pas du tout d'accord. Le MPLA d'Agostinho Neto, le FPLA de Roberto Holden et l'UNITA de Jonas Savimbi vont, après d'âpres négociations, accepter de signer les accords d'Alvor qui préconisent un gouvernement d'union nationale. Mais ce gouvernement va aussitôt voler en éclats. Les désaccords et la méfiance sont trop importants. Alors que le MPLA d'Agostinho Neto, pro-communiste, rapidement reconnu par la communauté internationale et soutenu par le Portugal et bientôt par l'Union soviétique qui lui envoie des dizaines de milliers de soldats cubains, conserve le pouvoir à Luanda, les deux autres mouvements regagnent le maquis. Jonas Savimbi va sous la pression, sous les coups du mouvement pour la libération de l'Angola, le MPLA, militairement mieux équipé, s'installer finalement à Djamba, dans l'extrême sud-est du pays, à la frontière de la Namibie. C'est dans cette petite bourgade qui n'existe sur aucune carte qu'il va baser sa république à lui, son Angola libre. Mais devant les menées militaires, les attaques des troupes gouvernementales et les forces cubaines venues prêter main forte, Jonas Savimbi sait qu'il ne peut survivre, qu'il ne peut résister sans soutien extérieur. Il va alors mettre beaucoup d'énergie pour se faire des amis, pour obtenir l'appui des nations africaines. Jonas Savimbi.
C'était au mois de juillet 1977. Alors j'ai rencontré, j'étais bien accueilli par beaucoup de pays africains. Alors à ce moment-là, l'aide est sortie.
Jonas Savimbi.
Nous avons reçu des tonnes d'armes, d'argent. Ce n'était pas des milliers, c'était des millions de dollars. Et mais à ce moment-là, on n'avait pas de frontières sûres. On ne pouvait pas utiliser les Zaïre, on ne pourrait pas utiliser la Zambie. Donc nous avons dû demander aux Sud-Africains s'ils pourraient accepter notre aide et les passer à l'intérieur. Ils ont accepté.
Par Namibie.
Par Namibie. Donc quand les Sud-Africains ont vu qu'énormément de pays africains, des pays arabes, des pays européens même, aidaient l'UNITA, alors ils pensaient qu'ils étaient nos voisins. Alors ils ont dû aussi suivre. Ça c'est le premier point.
Vous dites que vous avez eu l'accord à ce moment-là d'un certain nombre de pays africains. Vous ne pouvez pas dire qui?
Non, je ne peux pas le dire parce que d'abord, notre lutte continue et certains de ces pays continuent à nous soutenir.
Pas question donc pour lui d'exclure du champ de ses soutiens potentiels le régime d'Afrique du Sud qui règne en maître dans la région et qui tient la Namibie. Pretoria va lui apporter son aide parce que l'Afrique du Sud veut également repousser le communisme qui représente pour elle une menace. Monsieur Paolo Gatto, on a beaucoup entendu Jonas Savimbi, dont vous étiez l'un des proches, dès la première heure, l'un de ses fidèles lieutenants, fustiger le communisme et vanter le bloc occidental capitaliste. Jonas Savimbi était-il vraiment le libéral qu'il présentait? Votre mouvement, l'UNITA, était-il réellement aussi anticommuniste qu'il le prétendait?
Bon, ça c'est une question très, très sérieuse. En fait, l'UNITA, je ne pense pas que l'UNITA était une fois un mouvement de droite. Non, ça c'est exclu. Il suffit de regarder les origines de Jonas. Il est issu d'une famille pauvre et qui a fait ses études avec des difficultés. On les voit ses premières alliances. D'abord en Afrique. Et un peu plus tard, dans les années 66, 60, 64-65 avec les Chinois. Donc, je pense, je suis persuadé que l'État n'a jamais été un mouvement de droite. Ça a été dû à un concours de circonstances.
C'est par opportunisme en réalité.
Je ne sais pas si c'était par opportunisme, mais il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'en 1975, au moment de la décolonisation, les soviétiques qui avaient atteint à ce moment-là le pic dans leur expansionnisme, surtout avec la défaite qu'ils ont infligée aux Américains au Vietnam, ont fait leur choix lié au fait que la révolution des œillets, à un moment donné, a basculé aussi vers l'extrême gauche. Donc il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait qu'à un moment donné, Jonas a dû trouver les voies et moyens, d'abord pour trouver...
Pour trouver l'argent, il s'est mis avec les autres, en réalité.
Non, c'est pas pour trouver l'argent. Une raison, de trouver de l'espace et des alliés.
L'un des principaux alliés est le régime raciste d'Afrique du Sud qui lance l'opération Zulu. Dans ses fourgons, elle amène les guérilleros de Jonas Savimbi jusqu'à 200 km au sud de Luanda, près de Porto Amboy. Pourquoi Jonas Savimbi, qui se disait au départ opposé au régime sud-africain, choisit-il de s'allier à l'Afrique du Sud?
Oui, écoutez, ça c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Hein. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il y avait d'un côté les Cubains, de l'autre côté les Sud-Africains, dans le Sud. Et je me souviens que ça a été un drame. Il y avait pour l'État deux fronts au départ. C'est après qu'un certain chef d'État, un ex-chef d'État qui est toujours vivant, l'ancien président de la Zambie, Kenneth Kaunda, est venu voir Jonas pour signifier qu'il ne fallait pas combattre les Sud-Africains dans le Sud, parce qu'il s'agissait là d'une stratégie de puissance occidentale et que lui, Kaunda, était chargé de conduire, de chercher à trouver, à expliquer, si vous voulez, à Jonas, quelles étaient les raisons de l'intervention des Sud-Africains. Donc les Sud-Africains sont intervenus, pas sur demande de l'UNITA, loin de là. D'ailleurs, l'UNITA était le plus petit mouvement parmi les trois. Donc on a su par Kaunda que l'intervention sud-africaine faisait partie d'une stratégie encouragée par les Américains.
Ça veut dire qu'à aucun moment vous ne faites vraiment le choix de vous mettre avec les Sud-Africains, mais en réalité, on vous dit de vous mettre avec les Sud-Africains, c'est qui nous arrange.
On nous dit que les Sud-Africains n'étaient pas un adversaire, un ennemi, mais ils étaient un allié, même des circonstances.
Mais cela ne vous a pas gêné, ce régime qui était combattu par la plupart des nations africaines, qui était régime d'apartheid?
Nous avions dans nos bases à l'époque des ex-combattants de la SWAPO qui étaient avec nous.
Il faut préciser que la SWAPO, l'Organisation du Peuple du Sud-Ouest Africain, était le mouvement de la résistance en Namibie.
J'ai été chargé par le président Savimbi d'aller voir nos amis de la SWAPO pour les expliquer, pour leur dire exactement qu'est-ce qui se passait. Et j'ai été chargé d'aller quelque part dans le centre du pays où on a trouvé une région dans laquelle nos SWAPO ont été placés. Donc, comme vous le dites si bien, on n'a pas choisi le soutien sud-africain, mais ça faisait partie de la stratégie des puissances occidentales à un moment donné. Surtout les Américains qui venaient de subir une défaite au Vietnam, ils étaient dans une position très très faible. Elle ne voulait pas risquer ouvertement de s'engager dans un autre conflit. C'est pour cela qu'ils ont trouvé dans la région une force organisée, puissante, qui pouvait quand même freiner, dans une certaine mesure, en attendant une clarification de la politique américaine à ce qui concerne l'intervention dans ce qu'ils appelaient à l'époque les conflits régionaux, jusqu'à ce que le Congrès a découragé les Américains d'intervenir dans un autre quelconque conflit. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dit, voilà, nous on quitte, et ils ont dit aux Sud-Africains, si vous voulez rester, c'est à vos risques de péril. Et c'est à ce moment-là que les Sud-Africains ont dû quitter, eux aussi, je crois qu'en février 1960, 1976.
Avec le départ des Sud-Africains en cette année 1976, l'UNITA se retrouve seule et désemparée, mais pas pour longtemps. Jonas Savimbi s'organise. Un grand communicateur qu'il est, il veut le soutien des grandes puissances. Et pour cela, il va jouer à fond sur les divisions idéologiques qui divisent le monde en cette période de guerre froide. Jonas Savimbi.
Si nous craignons que l'autre côté, l'autre partie constitue aussi une force avec les pays africains progressistes, avec la Russie, cette force est déjà constituée. Elle est déjà constituée, j'en ai la preuve. Dans l'affaire de l'Angola, il y a eu Russes, pacte de Varsovie. Parce qu'il y a les Russes, les Allemands de l'Est, les Bulgares, Cuba, n'est-ce pas, qui sont maintenant chez nous. Donc je crois que les forces de l'autre côté sont déjà coalisées. Alors là, ce n'est pas nous que nous allons forcer, ce n'est pas l'Afrique modérée qui va forcer l'autre côté à s'organiser, est déjà organisée. Je ne pense pas, toutefois, qu'il soit souhaitable qu'on force encore une autre armée d'intervention. Mais il faut quand même qu'on montre qu'il y a une volonté. Chaque fois que la Russie et les Cubains entreposés essayeraient de déstabiliser un pays africain, alors qu'il y a une volonté africaine, d'abord, et il y a aussi l'amitié des autres pays qui nous aiderait à contrer cette expansion. Je crois que c'est un problème et qu'il faut aujourd'hui poser clairement. Pourquoi y a-t-il des forces étrangères en Angola? C'est parce qu'il y a eu l'absence d'autres partis. Parce que dans le monde actuel, contre notre volonté, mais la situation, il faut l'accepter comme elle est, il y a deux superpuissances, l'Amérique et la Russie. Alors, où il y a l'intervention russe, pour neutraliser la situation, il faut l'intervention américaine. Tout au moins, pour neutraliser les Russes. Mais en Angola, il y a eu absence de volonté de la part des Américains d'agir. Je ne pense pas que l'Occident est en train de juger exactement l'ampleur et la profondeur des intentions des Russes de contrôler l'Afrique. Et si les Russes contrôlent l'Afrique, il va de soi que les matières premières et qu'alimente l'industrie de l'Europe sera contrôlée par les Russes. Ce sera un élément de pression énorme dans les mains des Russes. Et c'est pour cela que je pense que nous avons maintenant un moment excellent d'expliquer à l'opinion européenne ce qui se passe réellement en Afrique.
Dans un premier temps, quelques nations occidentales, arabes et africaines modérées lui accordent une attention soutenue. Les Sud-Africains, s'appuyant sur la menace communiste et la rébellion en Namibie, lui apportent leur aide. L'argent afflue d'Arabie Saoudite notamment, tandis que l'Égypte et le Maroc forment ses officiers. Le trafic de diamants et d'ivoire arrondit son trésor de guerre. Quels étaient, Paolo Gatto, vous qui étiez l'un des principaux dirigeants du mouvement, vos principales sources de revenus?
On avait un certain soutien very low profile des Sud-Africains, mais aussi on avait des ressources d'intérieur. À l'intérieur du pays, ressources naturelles.
Monsieur Almerindo Jacajamba, vous étiez également l'un des responsables de l'UNITA. On a souvent dit que votre mouvement, dans cette période, vivait du braquage, du rançonnage des populations dans les régions que vous teniez.
Absolument. Ce type de guerre, de résistance, on ne peut pas le faire sans vraiment le soutien, l'appui de la population à tous les niveaux. Au niveau du ravitaillement pour les soldats, la collecte des populations et au niveau aussi de l'information surtout. Et cette information, elle est seulement possible quand tu as vraiment le soutien, l'appui des populations.
Mais est-ce que ces populations n'étaient pas sous votre pression? Est-ce qu'il n'a pas été un peu dictateur pendant cette période, le président Jonas Savimbi, vis-à-vis des populations où vous étiez installé?
Bien, on ne peut pas faire mener à bout une guérilla pendant des années, parce que ça a pris 16 ans jusqu'à ce qu'on arrive aux accords, sans le soutien de cette population. C'est vrai qu'il faut aussi une philosophie, et il faut l'éducation pour les forces armées. Les guerriers doivent être comme un poisson dans l'eau. Si on crée une ambiance hostile, on ne peut pas mener au bout, parce que là, c'est vraiment une autre société, c'est vraiment un autre contre-État qui est en train de se créer. Alors il a fallu quand même très habilement faire de telle façon qu'on puisse mériter le soutien des populations.
Il y avait aussi le trafic des diamants qui vous procurait de l'argent.
Le diamant, il y en avait quelques, c'est-à-dire dans les zones où nous étions, il y avait quelques diamants. Et le diamant, c'est vraiment aussi une paix de minutes, une source pour appuyer les activités à ce moment-là. Il fallait à tout prix de survivre avec les moyens qu'on pouvait avoir.
Viva!
Avec l'argent, l'UNITA s'organise. Il conforte son fief dans le sud-est angolais. Son armée s'équipe et se forme. Il faut des guerrieros qui savent pourquoi et contre qui ils se battent. La formation idéologique occupe une place importante.
Dans la conversation, nous avons deux parties.
Une classe en plein air.
La conversation politique et la conversation normale.
Là aussi, on parle politique.
Je vais commencer à poser certaines questions sur notre politique. N'est-ce pas?
Oui.
Bon, je vais commencer par la première question. Quelle est la signification de l'UNITA?
La signification de l'UNITA, c'est l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola.
Bon, merci. Asseyez-vous. En Angola, quels sont nos ennemis?
Nos ennemis en Angola sont les Russes, les Cubains et Impélia. En Angola, nos ennemis sont les Russes, les Cubains et Impélia.
Bon, merci beaucoup. Quel est l'effectif des Cubains en Angola, mademoiselle Anna?
Ils sont ton nombre 40 000.
Répétez tout le monde.
Ils sont ton nombre 40 000.
Capable de s'exprimer en quatre langues locales, Savimbi multiplie les meetings de Bruce pour asseoir son pouvoir personnel. Mais il ne néglige pas pour autant les relations extérieures. Au contraire, en 1979, il est fraîchement accueilli par l'administration de Jimmy Carter, qui refuse de le recevoir. Il va prendre sa revanche en 1981. Des hauts fonctionnaires du département d'État et des autres membres du Congrès américain lui prêtent une oreille attentive lors d'un second séjour à Washington. L'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique se sont entendus sur le principe du linkage, une solution qui consiste à faire du départ des Cubains d'Angola la condition sine qua non du règlement de la question namibienne. Entre-temps, Jonas Savimbi s'est fait chef d'une république. Jamba en est la capitale, avec quelques 12 000 habitants. Son emblème, un corps noir, estampille les laissez-passer exigés par l'UNITA le long de la frontière angolo-zambienne. Le troc remplace le Kwanza angolais. Une station de radio, la voix du corps noir, sérine les slogans anticommunistes en même temps qu'un credo calqué en creux sur celui du MPLA qui tient la capitale. L'armée de Jonas Savimbi grandit et elle se spécialise puisqu'elle commence à fabriquer certaines de ses propres armes sur place. C'est dans ces conditions, alors qu'il occupe une grande partie du territoire angolais, que survient l'affaire de l'enlèvement des experts tchèques et leurs familles. Ils sont 66 et leur rapt en mars 1983 va braquer les feux des projecteurs sur l'UNITA qui prend de l'ampleur et qui fait de plus en plus parler d'elle.
Notre but n'était pas de capturer les tchèques. Nous avons comme objectif, comme plan stratégique, d'attaquer les objectifs économiques du MPLA, comme partie de notre guerre contre les Cubains qui occupent notre pays. Mais comme nous sommes tombés sur les Tchèques, nous avons pris pas en otage, mais nous avons voulu aussi assurer leur sécurité. Mais comme les Tchèques sont là, sont avec nous, maintenant nous comptons et en tirer un profit. Ceci dit, nous voulons échanger certains de ces tchèques contre les Britanniques et un médecin français. Et même, nous considérons aussi la possibilité de demander à travers la Croix Rouge internationale que l'Impéla libère certains de nos membres et qui ont été incarcérés injustement dans les prisons du Impéla.
Le bénéfice que Savimbi va tirer de cet enlèvement va-t-il permettre à l'UNITA de bénéficier de l'attention dont elle a besoin? Cette armée, cette rébellion qui gagne du terrain, qui s'équipe et qui obtient des victoires, parviendra-t-elle à Luanda, la capitale? Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Jonas Savimbi, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
C'est dommage.
Les archives d'Afrique à l'avocat.
Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ça, c'est seulement une commission.
Nous avons déjà libéré tout le monde. La doctoresse et tout le monde sont libres depuis ce matin. On vous attendait. Maintenant, c'est à vous.
Toute la délégation est libre.
Toutes sont les femmes et les enfants. Alors, vous pouvez parler avec eux. Vous pouvez les voir demain. C'est à vous de jouer. Après, on va discuter.
D'accord.
Bien, bien. Et où est de la Cruz Vermelha qui va et vous le voir.
Même surréaliste que celle de ce guerriero libérant des otages tchèques capturés quelques mois plus tôt lors d'une de ses attaques dans une usine de fabrication de papier. C'est à la Croix-Rouge, devant caméra et micro, qu'il les remet. C'était aussi et surtout cela Jonas Savimbi, le patron fondateur de l'UNITA, l'Union Nationale pour la Libération Totale de l'Angola, l'un des principaux mouvements de lutte pour l'indépendance qui, au lendemain de l'accession de son pays à la souveraineté internationale en 1975, va rejoindre le maquis et créer sa propre république dans le sud-est du pays, avec sa propre capitale, Jamba. C'est de cette région qu'il s'organise pour aller à la conquête du reste du territoire, avec bien sûr l'appui de l'Afrique du Sud.
J'ai bénéficié de deux choses. D'abord, mon père était un nationaliste. À l'âge de 11 ans, ceci dans les années 45, mon père me disait que c'était dommage que Salazar n'avait pas fait l'alliance avec Hitler. Et moi, je disais pourquoi. Il me disait, s'il avait fait l'alliance avec Hitler, donc Salazar serait battu avec Hitler. À ce moment-là, nous aurions gagné notre indépendance. Au moins, l'Angola serait devenue un territoire sous tutelle des Nations Unies. Donc, depuis la maison, j'ai appris à être nationaliste. Mon père est mort en prison. Et deuxièmement, moi, dès l'âge de 22 ans, j'étais déjà mêlé dans la révolution de libération pour les pays africains contre le colonialisme. Et donc, je savais ce que signifiaient les alliances. Les alliances, il faut juger les intérêts. Si les Sud-Africains n'avaient pas des intérêts en Angola pour lutter contre la SWAPO et contre l'ANC, donc, des bons cœurs, les Sud-Africains ne pourraient jamais me soutenir. Alors, il a fallu analyser les contradictions pour trouver qui pourrait être mon allié. Et j'ai vu les Sud-Africains étaient les seuls qui pourraient m'aider à ce moment-là dans leur propre intérêt. D'autant plus qu'au moment où l'histoire de la SWAPO s'était résolue, au moment où ils ont engagé les négociations avec l'ANC, l'Afrique du Sud s'est désintéressée de l'UNITA. Donc moi je crois qu'il faut, dans ma vie, c'est pas seulement pendant ma guerre, il faut connaître, analyser les situations et saisir les opportunités. Ce n'est pas une alliance contre nature. Autrement, qu'est-ce qu'on dirait des Cubains qui ont occupé le pays ?
Suite de notre série consacrée à Jonas Savimbi. Avec la mort d'Agostinho Neto, qui a installé une dictature marxiste et léniniste à Luanda, José Eduardo dos Santos le remplace en septembre 1979 à la tête de l'État. Il devient également le secrétaire général du MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola. Il poursuit alors la politique, la stratégie de lutte initiée par son prédécesseur. Dans les régions qu'il tient désormais dans le sud du pays notamment, Jonas Savimbi impose sa loi, sa propre dictature aux populations qui sont sous son contrôle. Monsieur Almerindo Jakajamba, vous qui étiez l'un de ses proches, un des grands cadres de l'UNITA, on a souvent dit que Savimbi était violent, brutal avec les populations, c'est vrai ?
C'est vrai que les hommes sur la terre ne sont pas des anges. Mais si on n'a pas l'appui, le soutien, et on n'a pas une philosophie qui puisse permettre d'engager un combat de ce type, un élément essentiel, fondamental, c'est le soutien des populations. Là, c'est pour cela qu'il a fallu éduquer les soldats. C'est-à-dire que les soldats doivent avoir un message de libération.
Oui, mais on a souvent dit que le président Jonas Savimbi était particulièrement cruel quelquefois, qu'il a brûlé vif des gens. C'était de la rumeur, c'était de la réalité. Et est-ce qu'il fallait passer par là pour faire passer le message ?
Non, c'est vrai que dans les zones où nous étions, il y avait aussi des populations avec ses traditions et ses habitudes. Et on ne peut pas concevoir, et ça c'est très intéressant. Par exemple, dans un contexte où il y a des populations avec leurs habitudes, leurs traditions, et surtout quand il s'agit de ces problèmes de sorcellerie, etc., c'était vraiment ces populations qui, en principe, tenaient ces traditions. Et on ne peut pas tout d'un coup couper avec toutes ces traditions. Mais il faut tenir compte que mener une guérilla telle qu'on l'a eue et qui a permis vraiment ouvrir les portes pour la démocratisation du pays, parce qu'avant il y avait seulement un système de parti unique.
Mais le fait de brûler quelqu'un vif, qu'est-ce que cela a à voir avec la tradition?
Non, moi j'ai dit ça, ce sont les traditions où on brûlait les gens. Ce n'était pas une politique qu'on puisse responsabiliser les partis. Ce n'est pas une politique du parti. Il y a eu dans quelques-unes des situations où ça s'est passé. Mais ça, c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement en Angola, même au Mozambique, il y a eu ces situations.
Où on brûlait les gens.
Comment?
Où on brûlait des gens.
Où les populations, dans leur tradition, avaient aussi des options bizarres. Y compris ces options. Mais ce n'était pas une politique inspirée par les partis. Et même les partis étaient en train d'œuvrer.
Monsieur Paolo Gatto, vous qui étiez l'un des proches des responsables de l'UNITA, pensez-vous que cette dictature, cette brutalité était nécessaire?
On a tout dit au sujet de Jonas. Il s'agissait de l'organisation d'un mouvement institutionnel. Il y avait une insurrection nationale. Il fallait une certaine dose d'organisation de discipline, sans lesquelles ça ne serait pas possible d'atteindre le niveau d'efficacité que l'UNITA a atteint.
Au début de la décennie 1980, l'UNITA de Jonas Savimbi est désormais un mouvement organisé qui compte 30 à 45 000 hommes, dont 15 000 à 20 000 réservistes. Les attaques des zones MPLA, le mouvement du gouvernement, reconnu par la communauté internationale, se multiplient.
Pour nous, l'attaque du chemin de fer de Benguela est déjà commencée. Nous marchons depuis 10 heures dans la brousse avec un petit détachement d'une cinquantaine de personnes et nous arrivons à la base de départ où un briefing va nous être fait par le colonel et nous rejoignons ici les 1000 hommes qui ont été rassemblés par l'UNITA pour attaquer la voie de chemin de fer stratégique de Benguela à Lobito.
Nous avons le poste qui s'appelle Munyangu, qu'on va attaquer au 20 avril.
Colonel Ben.
Et on utilise cette poste pour remplir les trains qui viennent de Luzo à Biye. Et ici, nous sommes sur la caisse à sable où on peut voir ici l'endroit où sont les FAPLA.
Nous sommes au camp de base, 48 heures avant l'attaque contre Munyango. Et dans une clairière de la forêt, nous nous trouvons en ce moment devant une maquette de 20 mètres environ sur 10 qui reconstitue fidèlement l'objectif que les 1000 hommes qui nous entourent vont devoir attaquer. Alors on voit très distinctement, dessiné avec des petits bâtons en bois, la voie ferrée, le fameux chemin de fer de Benguela. Et le colonel est en train de montrer en ce moment sur cette maquette les différents quartiers de la ville aux chefs de section qui vont participer à l'assaut. Il est en train de monter actuellement le casernement des FAPLA, les forces gouvernementales. Et puis derrière, on voit également reconstituer avec des bûches ce qu'on appelle les quartiers civils de la ville de Munyango.
150 metros de largura, isto é, daquele canto até aqui. Estamos a compreender?
Ah.
L'informação que nós temos é que este posto, l'ennemi é a peu près de compagnie. Nós irons attaquer avec des bataillons. Aussi, on va utiliser les forces de guérilla. Donc, la disposition d'attaque. On va faire la simulation d'attaque à partir du sud, mais on va vraiment faire l'attaque principale de l'est à l'ouest. Aussi, on va utiliser l'artillerie. Aussi, on va utiliser les armes anti-aériennes. On a aussi les SAM-7. Avec les forces que j'ai, je pense que pendant une heure, on peut voir vraiment qu'est-ce qui va se passer.
À ce moment de 1983, on estime à près d'un million les Angolais qui seraient contrôlés et régis par le mouvement dont Jonas Savimbi est le président. Un des officiers de Jonas Savimbi.
Nous avons beaucoup d'armes soviétiques que vous avez vues. Ce sont des armes capturées et tout ça. La Kalachnikov, c'est une arme soviétique qu'on trouve souvent dans les combats. Donc là, quand l'ennemi prend une défaite, là on trouve toujours des armes, mais en grande quantité. Surtout d'après la constitutionnalisation de l'armée régulière, là on commençait à capturer des grandes quantités d'armes, des RPG et tout ça.
SAM-7.
Oui, alors parlons exactement de la source de SAM-7. Il y a des SAM-7 capturés aussi, mais mais il y a d'autres démarches. Il y a même des pays amis, là où aussi on fait des démarches, mais ça c'est une chose qui m'échappe à moi.
Oui. C'est secret ça.
Je dirais, c'est secret vraiment, c'est un plan militaire, c'est secret, mais aussi je ne sais pas cela.
C'était au mois de juillet, 1977. Alors j'ai rencontré, j'étais bien accueilli par beaucoup de pays africains. Alors à ce moment-là, l'aide est sortie.
Jonas Savimbi.
Nous avons reçu des tonnes d'armes, d'argent. C'était pas des milliers, c'était des millions de dollars. Et mais à ce moment-là, on n'avait pas de frontières sûres. On ne pouvait pas utiliser les Zaïre, on ne pourrait pas utiliser la Zambie. Donc nous avons dû demander aux Sud-Africains s'ils pourraient accepter notre aide et le passer à l'intérieur. Ils ont accepté.
Par la Namibie.
Par la Namibie. Donc quand les Sud-Africains ont vu qu'énormément de pays africains, des pays arabes, des pays européens même, aidaient l'UNITA, alors ils pensaient qu'ils étaient nos voisins. Alors ils ont dû aussi suivre. Ça, c'est le premier point.
Vous dites que vous avez eu l'accord à ce moment-là d'un certain nombre de pays africains. Vous ne pouvez pas dire qui?
Non, je ne peux pas le dire parce que d'abord, notre lutte continue. Et certains de ces pays continuent à nous soutenir.
Parmi ces pays, l'Afrique du Sud, ce qui naturellement scandalise quelques autres nations subsahariennes.
D'abord, nous comprenons fort bien, c'est une question émotionnelle. En Afrique, dans la communauté noire, par le monde, et même dans les pays européens. Mais seulement, c'est que c'est un fait. Dans la zone où nous trouvons, dans les combats que nous menons aujourd'hui, il est complètement impossible de ne pas avoir des relations avec les Sud-Africains.
Pretoria, l'allié stratégique, alterne promesses et représailles, laissant parfois penser qu'elle pourrait, sous certaines conditions, lâcher son poulain Savimbi. Mais en réalité, rien ne peut pondérer l'obstination du président sud-africain Peter Botha, qui n'hésite pas un seul instant à égratigner l'amour propre de ses alliés américains en lançant une opération de sabotage contre les intérêts de la Cabinda Gulf Oil. En mai 1985, des militaires sud-africains qui entendaient se faire passer pour des hommes de l'UNITA sont pris la main dans le sac alors qu'ils s'apprêtaient à faire sauter des installations de la compagnie américaine exploitant la dernière ressource d'un Angola exsangue, le pétrole. Avec 150 bases réparties dans les provinces de Cuando-Cubango et du Moxico, l'UNITA forme des milliers de combattants à la fois à l'idéologie anticommuniste et à la guérilla. Mais elle ne dispose pas d'une couverture anti-aérienne suffisante, ce qui empêche au mouvement d'occuper durablement les villes qu'elle parvient à prendre. Elle va donc se lancer dans la fabrication des armes indispensables pour se défendre dans ce type de guérilla.
Pendant les bombardements qu'on a eu des hélicoptères pilotés, de fabrication soviétique pilotés par les Cubains, nous avons capturé quelques obus. Et après, on a pensé, ici même à Jamba, de fabriquer quelques lance-roquettes. Et ils ont une efficacité extraordinaire avec une portée de 17 km.
Quel est le calibre?
Le calibre, c'est 57 mm.
Alors, il s'agit d'un bitube monté sur un pied avec un instrument de visée qui est aussi du matériel de récupération.
Absolument, absolument.
Et qui vient d'où, le système de visée? De quelle arme?
14,5.
Et alors, un peu plus à gauche, nouvel engin fabriqué également ici, deux fusées. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la fabrication de ces fusées?
Oui, l'histoire de ces fusées, ce sont pour une rampe, ce ne sont pas des tubes. Primo, on a essayé, le premier que vous voyez ici n'était pas tellement perfectionné, mais l'autre est plus perfectionné. Ça démontre que même au point de vue de la fabrication du matériel de guerre, on a avancé sur ce domaine.
Ce sont des fusées à ailettes, quelle est leur portée?
Environ 20-22 km.
L'UNITA bénéficie également dans son combat d'une base arrière irremplaçable, l'Afrique du Sud, qui n'en finit pas d'aller et venir sur une partie du territoire angolais en dépit des accords de Lusaka signés en février 1984 avec le MPLA, qui lui interdisent désormais toute incursion en territoire angolais. Le gouvernement de Luanda s'engageant à réprimer les infiltrations de la SWAPO, le mouvement de libération namibien. Avec son avancée et l'arrivée des millions de dollars, comme il le disait lui-même, Jonas Savimbi intensifie toujours sa diplomatie. Il souhaite obtenir le soutien des grandes puissances, notamment des États-Unis d'Amérique. Juin 1985, le Sénat américain abroge l'amendement Clark, qui interdisait depuis 1975 toute aide militaire aux factions communistes en Angola. Et pour que nul ne s'y trompe, l'auteur de cette initiative va souligner que cela remonterait le moral des troupes de Savimbi tout en constituant un signal clair pour les soviétiques et les cubains. Almerindo Jacajamba, ancien collaborateur de Jonas Savimbi.
Si le parti de l'UNITA avait aussi une diplomatie qui venait déjà du temps du mouvement de libération, On allait en Amérique pendant le commencement de cette nouvelle guerre dans le pays. Il y avait l'amendement Clark qui empêchait que l'Amérique puisse, dans le cas de l'Angola, quelqu'un qui combattait le gouvernement qui était sur place. Mais on a fait vraiment un lobbying fort en Amérique qui a pu aboutir à la suppression de l'amendement Clark, ce qui a permis vraiment d'avoir aussi l'aide de la partie américaine, pas seulement au niveau de moyens matériels, mais aussi et surtout au niveau diplomatique.
Jonas Savimbi n'en attendait pas moins. De monnaie d'échange possible, le voici consacré défenseur du monde libre par le gouvernement Reagan. Il faut dire qu'il a rivalisé d'ingéniosité pour séduire le bloc occidental. Le premier week-end de juin 1985, il a créé l'International démocratique avec les contrastes nicaraguayens, un représentant de la guérilla afghane et l'organisation du peuple de Lao. Jonas Savimbi n'en est pas à sa première offensive de relations publiques. Journalistes et hommes politiques sont souvent conviés à Jamba, sa base, pour des démonstrations à la fois de séduction et guerrière. L'abrogation de l'amendement Clark sont un réel espoir pour lui et son mouvement. Mais le chemin de Luanda n'est pas pour autant ouvert. Avec ce soutien de Thaï, parviendra-t-il à s'y installer? Le bloc communiste n'a pas encore dit son dernier mot. Eduardo dos Santos n'a absolument pas l'intention de se laisser faire. Les mois et les années qui vont suivre s'annoncent particulièrement mouvementés. Surtout que plusieurs acteurs, tant de la sous-région que du Nord, semblent prendre activement part dans cette guerre angolaise, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Jonas Savimbi. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Chicana.